Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, vous écoutez Studio Tamani, bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. 49 militaires ivoiriens ont été interpellés ce dimanche déjoué à l'aéroport de Bamako. Selon le gouvernement, il s'agit des mercenaires. Ils étaient en possession d'armes et de munitions de guerre et n'avaient aucun ordre de mission, affirme le gouvernement. L'unité, le développement et la stabilité du pays, c'est l'appel lancé par le président de la transition, Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation. Cependant, des partis politiques interpellent le président a nommé un premier ministre neutre et consensuel. Le dossier de la rédaction s'intéresse au bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Quelle perception les populations ont-elles du bonheur? Les détails dans ce journal qui vous sera présenté par Assitou Kanté, mise en onde Gagne Kanté. 49 militaires ivoiriens ont été interpellés ce dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Dans un communiqué lu ce lundi soir à la télévision nationale par le ministre porte-parole, le gouvernement de transition considère qu'il s'agit des mercenaires. Il affirme que ces éléments arrêtés seront mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Dramane Maïga.
Le communiqué indique que ces militaires ivoiriens sont arrivés sur le territoire malien sans avoir informé les autorités maliennes au préalable. En possession d'armes et de munitions de guerre, ces soldats n'avaient aucun ordre de mission, ajoute le communiqué. Selon le porte-parole du gouvernement, la profession réelle de ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, était dissimulée. Et pour justifier leur présence au Mali, ils ont avancé 4 versions, poursuit le colonel Abdoulaye Meïga, notamment la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Selon le ministre, les responsables des forces de défense et de sécurité ivoiriennes contactées ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés. Et quant à la MINUSMA, elle a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Un peu plus tôt dans la journée, le porte-parole de la mission, Olivier Salgado, a affirmé dans un tweet que l'arrivée de ces soldats avait été préalablement notifiée aux autorités maliennes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens le vendredi soir. Ce discours intervient après la levée des sanctions économiques et commerciales de la CEDEAO. Il a appelé à l'unité et à se concentrer sur le développement et la stabilité du pays. Toutefois, le cadre d'échange des partis politiques et regroupements pour une transition réussie sollicite du président Goïta de créer les conditions d'inclusivité par la nomination d'un premier ministre neutre et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les détails avec Arkia Touré.
C'est le premier discours du président de la transition depuis la levée des sanctions économiques et commerciales imposées par la CEDEAO le 3 juillet dernier. Assimi Goïta a déclaré que nous nous réjouissons que la tension n'ait des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides soit désormais dissipée. Dans ses discours prononcés à la veille de la fête des Tabaski, le colonel Goïta a appelé à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Le combat du développement est celui qui devait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliens, a-t-il dit. Le président a aussi affirmé avoir beaucoup appris de ces sanctions et des leçons ont été tirées de cette épreuve. Le chef de l'État a aussi évoqué les défis à relever pour le reste de la transition, à savoir la rédaction d'une nouvelle constitution et l'exécution des assises nationales de la refondation. Dans cette adresse à la nation, le colonel Assimi Goïta n'a pas manqué de témoigner la reconnaissance du Mali à la Guinée et à la Mauritanie qui ont laisser les frontières ouvertes pour la circulation des personnes et de leurs biens. Toutefois, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie s'est réjoui de son côté de la levée des sanctions et la reprise du cadre de concertation avec les partis politiques avant de prendre acte de la disposition d'un chronogramme électoral. Cependant, ces acteurs politiques sollicitent des autorités un débat sincère impliquant l'ensemble des forces vives de la nation afin que les décisions relatives aux élections et aux réformes soient conformes à la situation du pays.
Pour relever les défis actuels du pays, certains observateurs préconisent aux autorités de transition l'élargissement du gouvernement et l'implication de toutes les forces vives de la nation dans l'organisation des futures élections et la préparation des réformes politiques et institutionnelles. Barabini Keïta, chargé des questions politiques et sociales à l'UNSUP, est joint par Fatmata Kodjo.
Le président a beau appeler les gens
à l'union sacrée, ben je ne pense pas que cette union sacrée puisse se réaliser en trois hauteurs de souhait. Et donc, ce qui est clair, les forces politiques et sociales vont continuer à s'affronter parce qu'il y a des enjeux. Et l'enjeu majeur, c'est le pouvoir. Et à travers le pouvoir, c'est le contrôle aussi des ressources. Donc, en échange, ce que moi je propose, en tout cas aux plus hautes autorités, ce n'est ni un gouvernement de technocrates, ce n'est ni un gouvernement d'union nationale, mais c'est de maintenir l'actuel gouvernement et de procéder effectivement à un remaniement ministériel. Donc, c'est-à-dire atteindre un certain équilibre sociopolitique de notre pays. Donc, pour qu'on puisse en tout cas sortir grandiose de cette période de transition.
La réouverture des frontières avec les pays de la sous-région fait le bonheur des propriétaires de quincaillerie. Pourtant, si cette levée de sanctions a permis de baisser les prix de certains matériaux de construction, elle n'a toujours pas changé la situation économique du pays et la cherté des produits regrette certains vendeurs de pièces détachées. Les détails dans ce reportage de Lale Tangara.
La réouverture des frontières fait le bonheur des propriétaires de quincaillerie. C'est le cas de Abdoulaye Benkali. Selon lui, avec cette levée des sanctions, ils pourront vendre les matériels de construction à un prix abordable et aussi faire plus de bénéfices.
La levée de l'embargo a beaucoup d'importance parce que cette cherté n'est pas le souhait des commerçants, les clients non plus. Plus les produits sont chers, plus cela joue sur nous. Si les prix des produits baissent, notre bénéfice s'élève à ce moment. Nous souhaitons que tout revienne à la normale.
Cependant, les vendeurs des pièces détachées ne partagent pas cet avis. Ils déplorent toujours la cherté des pièces et le manque de clientèle.
Maintenant, les produits sont chers, mais les clients viennent petit à petit. Si les prix diminuent, on peut avoir plus de clients.
La clientèle est timide. Depuis l'imposition de cet embargo au Mali, nous souffrons parce que notre travail concerne les pièces détachées.
Toutefois, certains soutiennent que cette cherté des produits n'avait rien à voir avec l'embargo. Ils ajoutent que même avec la levée des sanctions, que les prix demeureront inchangés.
Autre sujet, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMO a visité les régions de Mopti et Badiangara la semaine dernière. Durant cette visite, El Qassim Wane a insisté sur la mutualisation des efforts entre la force des Nations Unies et les forces armées maliennes dans le cadre de la lutte contre les djihadistes au centre du pays. Au même moment, son collègue pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Saleh Anadif, martèle que la lutte contre l'insécurité au Sahel passe par une gouvernance démocratique et responsable. Les détails avec Ali Cissé.
Le rôle de la mission des Nations Unies au Mali est d'appuyer les autorités maliennes et non se substituer à celles-ci. C'est en ces termes que le patron de la MINUSMA s'est exprimé au cours de ses rencontres avec le commandant du théâtre centre de l'opération Malico et le gouverneur des différentes régions qu'il a visitées. Pendant son séjour, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a insisté sur la collaboration plus étroite entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Ceci permettrait d'avoir un impact plus important dans les efforts de stabilisation des régions du centre du Mali, a laissé entendre El Qassim Wane. La présence des forces onusiennes dans le village meurtri par les djihadistes semble avoir été renforcé au dire du patron de la MINUSMA. De son côté, l'émissaire spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel précise que le changement climatique amplifie et exacerbe les conflits existants. Aussi, Mohamed Saleh Anadif ajoute qu'il n'est plus un secret pour personne que, dans de nombreuses régions du Sahel, des groupes extrémistes et criminels exploitent ses faiblesses. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, comme c'est le cas dans beaucoup de pays de la région, passe nécessairement par une gouvernance démocratique et responsable, y compris la mise en place des services publics qui apportent des solutions au quotidien des populations, a martelé l'envoyé spécial de l'ONU.
Parlons à présent de la préfète. Que deviennent les peaux des moutons après la tabaski? Si auparavant, celles-ci servaient des tapis de prière pour les fidèles musulmans, aujourd'hui, les peaux des moutons sont vendues et exportées vers les pays voisins à des fins commerciales. Les revendeurs de ces peaux indiquent que ce commerce est rentable. Cependant, ils regrettent l'inexistence des centres de conservation et de transformation de peaux au Mali. Les détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
Pour certains citoyens, il est temps que l'État installe des usines de conservation et de transformation des peaux au Mali. Ils estiment que la fabrication des souliers, des sacs et bien d'autres articles avec les cuirs maliens peut générer des ressources énormes au Mali.
Il faut créer une société pour entretenir les peaux là, parce que ça peut apporter de l'argent, ça peut créer des main-d'œuvre.
La conservation, elle est impossible dans la mesure où il n'y a pas une société qui peut acheter.
La peau des moutons, on peut la conserver, parce qu'il y a beaucoup d'utilité. Si tu es musulman, tu peux prier la DECI. On peut la conserver et puis la revendre.
Cet avis est partagé par Naba Diara, un revendeur de peaux d'animaux. Il dit avoir exercé ce métier il y a plus de 20 ans. Il affirme que le métier nourrit son homme.
J'achète les peaux à 250 ou 300. Après les avoir entassées, je mets du sel là-dessus pour mieux les conserver. Puis je les revends à un partenaire au niveau de l'usine. Lui, il les confectionne et les exporte vers les pays étrangers. Cela m'a beaucoup rapporté. Je ne pourrais citer tout ce que ce travail m'a apporté.
À noter que le manque de conservation des peaux d'animaux en cette période hivernale pourrait polluer l'environnement, regrette des environnementalistes.
Direction Goufan, à 45 km de Maïna, cercle de Bafoulabé, où une vieille femme de 70 ans a été calcinée dans sa chambre dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juillet. Malade, elle grelottait de froid quand ses enfants, avant de sortir pour leur course, ont installé du feu dans sa chambre. Ce feu a pris son drap, puis la case entière. Selon le maire de Goufan, c'est la fumée et les flammes qui ont alerté les voisins. Djangouba Bambo Sissoko, maire de Goufan, est au micro de notre correspondant Bafoulabé Moussabi Sidibé.
Quand la case a pris feu, sa belle-fille était couchée, elle n'était pas au courant avec ses enfants. Donc la vieille étant toute seule et ne pouvant pas se défendre, donc elle a été brûlée vive. Donc avant que les gens ne s'aperçoivent qu'il y a la flamme, la case, la chambre était déjà en flamme. Donc les gens sont venus au secours, mais c'était déjà trop tard. L'incendie a été maîtrisé. Donc le fait qu'elle a été brûlée vif, nous avons été obligés de procéder à son enterrement nuitamment. C'est comme ça que l'incident est arrivé. Parce que c'est fait dans les environs de 23 heures passées.
On en vient à notre dossier du jour. Dans la vie de tous les jours, on mène une course effrénée à la quête du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? Plusieurs perceptions en sont faites. Selon les sociologues, il serait difficile de parvenir au bonheur. D'après eux, l'être humain est un éternel insatisfait. Mais pour d'autres, le bonheur réside dans l'appréciation de ce qu'on a. Un reportage de Mamadou Dimari Sissoko.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?
Le bonheur, un mot plein de sens et de signification. Il est l'état de pleine satisfaction où l'être humain ne désire plus rien. Pour bon nombre de citoyens, le bonheur est synonyme de bonne santé, de richesse et d'amour.
Le bonheur, c'est être en harmonie avec soi-même.
Ma pensée est que c'est la santé qui fait le bonheur.
Pour moi, le bonheur est un peu relatif. Ça dépend de la compréhension de chacun de nous.
Je regarde mes enfants, mais même si je n'ai pas d'argent, c'est la base.
Pour moi, le bonheur, c'est d'être entouré de ceux qu'on aime et d'être aimé.
Si, chez certains individus, le bonheur, c'est résume à la tranquillité du corps et d'esprit. Pour la sociologue, Mme Dambélé Andjara, le bonheur est la paix intérieure.
Je suis dans le bonheur si j'ai la paix intérieure. Du moment où je ne suis pas là en train de penser à des choses. Mais l'être humain, ce sentiment est difficile à avoir parce qu'on a toujours des envies, des besoins. Le bonheur total serait difficile. Du moment où l'être humain n'est jamais satisfait. Ceux qui ont des millions dans leur chambre sont en train de chercher encore de l'argent.
Enfin, si certains experts estiment que le bonheur réside dans l'appréciation positif de ce qu'on possède. Pour d'autres, c'est le fait d'accepter la vie avec ses hauts et ses bas.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, la cérémonie de sacralisation de l'enclume sacrée des Karagorola dans le cercle de Yoroso a pris fin dimanche. Plus de 100 personnes venues des régions du Mali et certains pays voisins ont pris part au rituel. Cet événement annuel consiste à faire des rites sacrés pour une bonne pluviométrie. Chaque participant amène soit un coq, une poule ou un bouc pour formuler des vœux. L'opération Tabaski pour la solidarité islamique de la Turquie en partenariat avec l'association Nema Development a été lancé dimanche à Yanfoyila pour cette deuxième édition de l'opération. 120 bœufs ont été offerts aux personnes démunies. L'objectif, selon les organisateurs, est de permettre aux plus nécessités de célébrer la fête de Tabaski dans la joie. C'était sous la présidence du préfet du cercle de Yanfoyila. Deux jeunes filles âgées de 12 et 14 ans ont été violées à Bafoulabé. Les faits se sont déroulés le vendredi à Faroto, une localité située à une vingtaine de kilomètres
de Maïna. Les deux filles quittaient Maïna pour des achats. Un ouvrier qui travaille dans le même village que les filles les a pris à moto. À mi-chemin, il les contraint à lui suivre dans la broussaille et passa à son acte ignoble. Selon les sources locales, il était sous l'effet de l'alcool quand il a été arrêté. Les mêmes sources ajoutent qu'il n'a pas nié les faits. Il a aussitôt été mis à la disposition de la justice. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Aïssata Diarra. Mais avant tout de suite, le magazine.